Bien, nous pouvons reprendre exactement à 12 notre parcours. Alors, la suite normale et logique de cette première analyse est dans cette idée du déséquilibre ou de la discordance entre les littératures, de suivre la présence de Cervantes, de Don Quichotte, en Angleterre, avant la traduction de Shelton, puisque si l'on admet qu'un des objectifs de ce cours, c'est de comprendre l'Espagne de Shakespeare ou l'Angleterre de Cervantes, il y a ces deux éléments. L'Espagne de Shakespeare peut passer par ce rapport de lecture, de connaissance qu'avaient les dramaturges élisabétains et parmi eux, Shakespeare, de Don Quichotte, et plus généralement des textes de la littérature espagnole, romans de chevalerie, romans picaresques, romans pastoraux. L'autre, évidemment, n'est pas une connaissance possible par Cervantes de Shakespeare ou de la quelconque des œuvres anglaises, mais de l'Angleterre comme telle. Alors, pour rester sur le premier élément, c'est-à-dire comprendre quelles étaient dans cette rencontre les appropriations possibles par Shakespeare du Quichotte, une première question qu'on doit poser, c'est évidemment les traces et les raisons de la présence de ce livre dans l'Angleterre. Il y a une date qui peut être considérée comme importante, fondamentale, c'est le moment où le livre est traduit en anglais. La traduction par Thomas Shelton en 1612, que d'ailleurs, curieusement, Burgess écrit « Il ne lut Don Quichotte, Shakespeare, qu'en 1611, année où parut la traduction de Shelton, ainsi que la Bible du roi Jacques. » C'est vrai pour la Bible du roi Jacques, mais ce n'est pas vrai pour Shelton. Et ici, Burgess ou bien n'a pas vérifié ses fiches, ou bien a confondu le moment où le texte de la traduction de Shelton a été enregistré dans la communauté des libraires et imprimeurs, et qui effectivement est toujours quelques mois avant la publication, le moment où un éditeur affirme par cet enregistrement sa propriété sur un texte, que l'on appelait à l'époque « right in copy », qui deviendra « copyright » au début du XVIIIe siècle, et la date de parution, de publication, de circulation de la traduction de Shelton, qui est de 1612. Ce qui est important, c'est peut-être dans un premier temps de repérer des présences du livre de Don Quichotte avant cette traduction. Ce qui pose évidemment les questions de savoir comment, pourquoi, à travers de quel mécanisme le texte pouvait être approprié. Et ceci nous fait commencer avec ce qui est advenu lors de l'ambassade, c'est-à-dire le fait que, il faudrait que je retrouve les pages qui correspondent à cela, lors de l'ambassade, une des conséquences premières a été l'acquisition des premiers exemplaires du texte par certains des membres de cette ambassade. Et on a des traces de la présence du Quichotte dans la bibliothèque de Bodley, qui est la bodléienne actuelle, et qui était au milieu de l'été de 1616, on a la trace d'une présence d'un exemplaire qui aurait été acquis par un libraire de Londres, John Bell, peut-être lié, sans être membre de l'ambassade de 1605, et avant août 1605, le registre de la Bodléienne mentionne la présence du Don Quichotte de Cervantes. Thomas Bodley était un aristocrate qui construisit une grande bibliothèque, c'est celle qui est aujourd'hui connue comme bibliothèque bodléienne à Oxford, Et dans cette bibliothèque, un don qui avait été fait de 100 livres par le comte de Southampton, personnage intéressant puisque c'est celui à qui est dédié ou sont dédiés les deux premiers poèmes de Shakespeare, le Viol de Lucrèce et Vénus et Adonis, avait fait ce don pour acheter des livres, et en particulier des livres espagnols. 45 livres espagnols sont achetés à partir de cet argent par ce libraire envoyé en mission, lié ou non à l'ambassade, ça c'est une question qui ne peut pas être résolue, mais qui fait que on sait que avant août 1605, il y a déjà dans la bibliothèque de Bodley un exemplaire en espagnol du Quichotte. Une deuxième trace de cette présence a pu être donnée, alors là, par un membre de l'ambassade qui s'appelle Dudley Carleton et qui, au cours du mois de novembre 1605, envoie une lettre à un de ses amis, John Chamberlain, et il lui dit qu'il a acheté en Espagne une série de livres parce que ceux de ce langage sont rares en Angleterre. Et donc, il est revenu avec des livres en espagnol. Il n'y a pas mention dans cette lettre-là de Don Quichotte, mais il y a mention d'un roman picaresque, La Picara Rustina. Dans une lettre de mai 1606, l'année suivante, il fait allusion à Don Quichotte. Il dit à son ami : Je vous envoie le défi de Don Quichotte, Don Quichotte's Challenge, qui est maintenant traduit dans toutes les langues et qui est envoyé dans le monde entier. C'est un texte un peu bizarre, d'abord parce que Don Quichotte en 1606 est traduit dans aucune langue, donc on ne voit pas pourquoi Carleton mentionne cette idée de « which is translated into all languages ». Et d'autre part, on ne sait pas bien s'il désigne, sous l'expression de Don Quichotte's challenge, le défi de Don Quichotte qui serait peut-être une allusion au combat contre les moulins à vent, ou s'il désigne le livre lui-même. Donc c'est un texte qui peut être commenté avec prudence. Il montre néanmoins que faire une référence, une allusion à Don Quichotte dans une correspondance privée en mai 1606 pouvait aller de soi, ne créer aucun problème, c'est-à-dire que le destinataire savait exactement de qui et de quoi on parlait. Donc on voit qu'autour de l'ambassade de 1605 apparaissent les premiers exemplaires du Don Quichotte en Angleterre. Et comme je l'avais rappelé, le livre a été imprimé à la fin de 1604. Les deux documents que j'évoquais la fois dernière et qui permettent de dater le moment à partir duquel un livre va être imprimé, c'est-à-dire ce qu'on appelle testimonio de las erratas, qui ne sont pas les errata du livre, mais qui sont le fait qu'un secrétaire du Conseil royal a vérifié que dans le premier exemplaire, un exemplaire du livre imprimé, c'est exactement le texte qui avait reçu l'autorisation de la censure qui est imprimé et qui est du 1er de décembre 1604. C'est-à-dire que le livre est déjà là, imprimé, puisque un secrétaire valide l'idée qu'il n'y a rien dans ce texte imprimé qui n'ait pas été, qui était présent dans le texte manuscrit tel qu'il a été autorisé et a reçu un privilège. Et le deuxième document, qui est la Tassa, qui est un texte qui définit le prix auquel le livre doit être vendu, c'était presque un prix de la loi du prix unique du 20 décembre 1604. Donc on peut voir que c'est au moment des fêtes de Noël et du passage de 1604 à 1605 que le livre imprimé dès le début du mois de décembre a pu circuler. Pour comprendre le contexte de réception du Quichotte dans ces années 1604, 1605, 1606, on peut peut-être faire retour sur cette relation que j'évoquais et qui n'indique pas, comme l'aurait voulu ou rêvé, ou comme l'a rêvé Burgess, la présence des Kingsmen, des comédiens du roi, dans l'ambassade, qui mentionnait simplement les présences d'un quelqu'un qui était un assistant à l'époque du Master of Revels, l'homme qui organisait les divertissements de la cour et aussi avait un droit de censure sur les pièces représentées à la cour. Et ce texte, paru en 1605, a pour titre long, comme souvent, ceci, une relation des choses que nous avons, qui furent observées comme ayant survenu durant le voyage de l'honorable Charles, duc de Nottingham, Lord High Admiral, Lord Admiral d'Angleterre, son grandeur, ambassadeur auprès du roi d'Espagne, ayant été envoyé là pour recueillir le jugement, the oath of the dit roi, pour la maintenance de la paix entre ces deux fameux rois de Grande-Bretagne et d'Espagne, selon les articles qui ont été formellement établis par le connétable de Castille en Angleterre durant le mois d'août 1604. Donc la page de titre rapporte la totalité de cet événement diplomatique, l'ambassade espagnole avec le connétable de Castille en Angleterre en 1604 et l'envoi d'une ambassade anglaise en Espagne pour obtenir, pour recueillir le serment du roi d'Espagne, Philippe III, sur ce texte des articles de la paix. Alors, cette relation définit assez bien ce contexte de réception qui pourrait paraître surprenant, j'y reviendrai, si l'on sait l'hostilité puissante qui existait entre l'Angleterre et l'Espagne dans les années qui précédaient la paix et qui n'était en rien un contexte de réception favorable pour ce qui venait d'Espagne, que ce soit des actions politiques ou que ce soit des textes littéraires. La situation a basculé avec cette paix de 1604-1605 et la relation qui est dit « set forth by authority ». D'ailleurs, c'est un texte officiel qui a été imprimé, « set forth », composé typographiquement, par l'autorité. Par l'autorité, donc sous l'autorité, c'est un texte qui a un statut tout à fait de texte officiel. Et son but fondamental est de montrer que les Anglais qui ont voyagé, the journey, en Espagne, ont été l'objet de respect, d'attention, de munificence déployée par les Espagnols pour eux. Et dans le texte revient très souvent ce jeu sur les deux mots de care and charge. Le care, c'est l'attention, la civilité, le respect, et charge, c'est la dépense. Et le rapport entre l'attention portée aux Anglais et les dépenses faites pour leur présence, leur logement, mais aussi pour leur divertissement, est une constante dans ce texte de cette relation qui a une soixantaine de pages. Et à un moment, à la fin, ce care et cette charge, cette dépense, sont rapportés comme étant le contraire de ce qu'avaient pu être les prêches anti-anglais des clercs et des frères. Et donc, vous vous souvenez, un écho passait dans le poème attribué à Góngora au début du texte de Burgess. Alors, cette aménité et cette attention, en même temps que cette dépense, peuvent amener à une lecture de cette relation de différentes perspectives, non pas immédiatement pour notre problème, puisque ni Cervantes chez les Espagnols, ni Shakespeare chez les Anglais paraissent présents dans le moment de cette ambassade, mais parce qu'ils donnent une sorte de contexte plus général sur les relations existantes entre nations ou souverains. La première traduction de cette aménité, de ce soin, de ce care pour les Anglais, elle est donnée dans une série de gestes rituels. Dès leur arrivée par les bateaux, les 7 bateaux de l'ambassade à La Coruña, le port de Galice, mais surtout, elle est donnée par la réception qui est faite par le roi Philippe III de cet ambassadeur anglais qui est Nottingham, le Lord Admiral. Et cette réception est marquée dans un caractère singulier. C'est ce qui advient le 18 mai, calendrier julien de l'Angleterre, lorsque l'ambassadeur Nottingham lui-même est reçu par le roi. Je traduis, le roi, descendant depuis son trône, s'entretint avec his lordship, qui est le mot employé toujours par la relation pour désigner l'ambassadeur anglais, Nottingham, avec le comportement le plus doux et le plus affable, lui demandant de s'asseoir à côté de lui et très près, very near, ce qui est une faveur spéciale, comme beaucoup l'ont observé, et qui les mêmes ont rapporté que c'était une chose qui jamais n'avait été faite pour aucun ambassadeur avant ce moment. Donc une distinction particulière et qui va se retrouver tout au fil de la relation sur le traitement, logement, approvisionnement fait aux Anglais. Il s'agit bien de montrer qu'il y a là un basculement d'une situation de relation entre Angleterre et Espagne. Le second trait qui est frappant à la lecture de cette relation, c'est ce qu'on pourrait appeler une diplomatie de la réciprocité. Récemment, les historiens se sont intéressés à la question d'histoire diplomatique, non pas à l'ancienne manière, pour les contenus des traités ou pour les négociations politico-territoriales, mais pour la diplomatie comme une forme de rituel. Et ce qui apparaît très clairement dans cette relation, c'est que ce rituel suppose, non pas dans le cas du roi, mais dans les autres cas, une forme de réciprocité. On le voit à une mention à un moment donné à la Coruña, il est dit « les Espagnols se mêlant eux-mêmes avec les Anglais « according to their degree », c'est-à-dire selon leurs états, selon leur rang. Et on a là, dans des sociétés d'État distingués, juridiquement, symboliquement, cérémoniellement, cette idée que les personnes de même rang peuvent intermingle, peuvent se mêler, mais à l'intérieur de cet échange égal. Un autre trait de cette réciprocité, il apparaît lorsque Nottingham est à Valladolid. Il ne se rend pas seulement à la cour du roi d'Espagne, mais il y a un moment, un balai incessant de visite des ambassadeurs. Les autres ambassadeurs lui rendent visite et lui rend visite aux autres ambassadeurs. Ou encore dans l'échange des présents, ce qui nous rapprocherait d'une idée du rituel. Le présent impliquant cette réciprocité, le roi d'Angleterre a fait porter ou a fait accompagner l'ambassade d'une série de présents qui sont offerts par Nottingham le 24 juin au roi d'Angleterre. De quoi s'agit-il ? 6 chevaux, 2 arcs, 4 fusils de chasse garnis d'or et un couple de chiens de chasse d'une extraordinaire... d'une extraordinaire goodness, excellent chien de chasse. Et on voit que la réciprocité, là, elle est inégale, mais néanmoins, elle existe, c'est-à-dire que le roi d'Espagne fait donner à Nottingham et aux chevaliers qui sont là, comme représentants du roi d'Angleterre, toute une série de présents, chaînes d'or, joyaux, et un diamant pour Nottingham d'une valeur de plus de 3000 livres. Donc on a cette ritualisation des relations diplomatiques en même temps qu'elles sont inscrites à l'intérieur d'un modèle social dans lequel l'égalité des rangs est la condition de l'échange. On a aussi une économie de la foi donnée, d'où l'importance du serment, puisque sur la page de titre et dans la réalité, le but de cette ambassade, c'est « to take the oath of the said king », recueillir le serment du roi qui va donner force, d'authenticité, voire de sacralité, aux articles du traité de paix. Et la description du moment du serment, c'est-à-dire le 30 mai de 1605, qui est le moment culminant, le climax de cette ambassade, est ainsi donné. Le roi siégeant sur son trône, his estate, Nottingham et l'ambassadeur qui va rester, lui, de manière permanente en Espagne, Ledger, furent placés sous sa main gauche. Les grands et d'autres nobles espagnols étant assis de l'autre côté, 2 degrés plus bas. On voit qu'il y a une attention toujours méticuleuse à ce qui introduit de l'inégalité lorsque les rangs doivent l'être ou le sont. Devant le roi d'Espagne a été apportée une petite table sur laquelle il y avait une Bible et un crucifix. L'archevêque de Tolède a lu le serment avec une voix haute, suffisamment forte. À un moment de ce serment, Nottingham a pris les mains du roi entre les siennes. Le serment étant... Le roi a ensuite juré ce serment en s'agenouillant et en posant sa main sur the book, la Bible. Et ensuite, il a souscrit aux articles et accords qui avaient été établis et conclus par les deux rois. On voit donc ici, là, dans cette scène, qui a été écrite comme un tableau, pratiquement, de le serment du roi d'Espagne sur la Bible et la réciprocité, l'échange, l'engagement par le fait que Nottingham, qui est en fait la représentation du roi anglais absent, prend dans ses mains les mains du roi d'Espagne, ce qui est une autre forme rituelle de donner force au traité de paix. Mais ce qui nous intéresserait plus dans la perspective de cette analyse, c'est le fait que si c'est une diplomatie de la réciprocité, si c'est une diplomatie du rituel, si c'est une diplomatie de la foi ou du serment, de la foi donnée et du serment échangé, c'est aussi une diplomatie de l'entertainment, du divertissement, et donc du coup, allant de pair avec le divertissement, d'une diplomatie de la dépense pour celui qui reçoit. Et que la relation est rythmée par une série de descriptions de ces divertissements, moins intéressées d'ailleurs parfois par leur contenu que par la munificence de leur cadre. Je prends 3 exemples. Le 28 mai, dans le palais du Valido, du principal ministre de Philippe III, qui est le duc de Lerma, on a une représentation de théâtre. Et vous vous souvenez peut-être que la pièce n'est pas nommée dans la relation anglaise. Et que l'on sait qu'il s'agit d'une comédia de Lope de Vega, El Caballero de Illescas, seulement parce que ceci est rapporté dans la chronique établie par le noble portugais Pinheiro da Veiga. Donc, la relation anglaise ne s'intéresse guère à ce qui était le contenu de ce qu'elle appelle un interlude. En revanche, ce qui est décrit avec soin, c'est la munificence du lieu et la dépense qui a été faite pour la circonstance, c'est-à-dire une toile qui a été posée sur le corral ou sur le patio de façon à éviter le soleil. L'idée qu'une allée couverte avait été établie pour permettre de porter les plats du repas depuis la cuisine jusqu'au patio dans lequel ils étaient consommés sans qu'ils soient altérés. Des tapis de cuir qui sont sur l'ensemble, sur le sol, pour éviter la poussière. Et donc, du coup, c'est à la fois une référence à la dépense qui est faite pour honorer les hôtes anglais, mais c'est aussi une référence implicite à la puissance du duc de Lerma, principal ministre de Philippe III, et qui s'affirme dans une autorité qui ne peut être, dans le XVIIe siècle, que portée et rendue possible par la fortune. Un autre détail est tout à fait intéressant dans la brève relation de la réception par Lerma des Anglais, c'est le fait que le roi et la reine assistent à la représentation, mais in private, c'est-à-dire finalement comme spectateurs séparés des autres spectateurs. Et la relation espagnole que j'évoquais, qui est parallèle, qui est la relation du même fait pour 1605 et publiée, elle, à Valladolid, pas plus que l'anglaise ne dit qu'elle est la comédia qui a été représentée, comme si ça n'avait pas beaucoup d'importance, mais en revanche indique, ahí se representó una comedia, on représenta là une comédia, qui fut reçue avec un général applauso y gusto, comme beaucoup de faveurs et d'applaudissements, y los reyes la vieron desde una jalousia. Les rois l'ont vue depuis une jalousie, c'est-à-dire ce qui était en fait celosia, et qui était ces fenêtres faites pour voir sans pouvoir être vu. Et donc, du coup, que les rois et la reine, on ne sait s'ils participent d'autres moments de cette réception, en tous les cas sont là, mais comme cachés. Et c'est un autre thème très important, c'est-à-dire l'inaccessibilité ou l'invisibilité du souverain transformé comme une pratique politique. Ce qui est déjà marqué en ce moment du début du XVIIe siècle pour le roi d'Espagne, la tension qui peut exister entre des rituels publics qui donnent à voir le roi, et plus tard on le verra participer à certaines des réjouissances, le jeu des cannes, les balles. Donc il y a une présence visible du roi, non seulement pour ceux qui sont les plus proches, mais parfois pour un public plus large, ce qui a pu être décrit en termes de rituels d'État, dans lesquels le roi, dans sa personne physique, corporelle, est rendu visible au sujet. Et de l'autre côté, une préfiguration de ce qui pourra être plus tard le retrait du roi dans un privé qui le rend invisible, inaccessible, et qui multiplie les représentations en l'absence de son corps personnel, de son autorité politique. Et la monarchie espagnole du début du XVIIe siècle croise ces deux éléments avec l'importance des rituels publics, mais ici, par exemple, le fait que le roi est hors, soustrait au regard des autres. Et la trame plus générale, c'est évidemment la thèse qui a été défendue par un certain nombre d'historiens, en particulier américains, dans une école d'analyse qui se liait au grand texte de Cantorow, avec les deux corps du roi, c'est-à-dire le passage de ces rituels d'État d'un roi visible à une société de cour d'un roi invisible ou invisible pour le plus grand nombre, et donc produisant les représentations qui le donnent à voir en son absence. Deuxième moment qu'on pourrait dire festif, plus complexe, plus ambigu, c'est le 30 mai, la procession du Corpus Christi, et qui d'ailleurs est le jour du serment du roi après la procession. Cette procession du Corpus Christi avait une importance très grande en Espagne, d'abord en rapport avec une piété focalisée sur le Saint-Sacrement, et d'autre part en rapport avec les spectacles multiples qui accompagnaient la procession du Corpus Christi, et en particulier les représentations des autos sacramentales, ces pièces chrétiennes qui étaient données à voir dans les villes mêmes sur des chars qui se mouvaient dans la ville. Ce qui fait que dans l'Espagne, on parle de la comédia ou des comédias avec les trois C. Elles peuvent être données à la cour, corte, elles peuvent être données dans les corrales, c'est-à-dire les théâtres ouverts qui ressemblent un peu, même beaucoup, aux amphithéâtres de Londres, et corpus, le moment du Corpus Christi dans lequel les représentations sont données. Il s'agit essentiellement d'autos sacramentales qui sont données dans la ville elle-même et avec cette formule des chars mobiles. Donc c'est un moment particulier et les Anglais sont évidemment invités à participer, malgré la différence de religion, à cette fête du Corpus Christi. Et la description de la relation est très ambiguë ou complexe à déchiffrer, parce que sans doute elle décrit ce qui a été, mais en même temps elle est peut-être pas sans référence à un certain nombre de distances religieuses de ces protestants anglais par rapport à ce qu'est cette procession. Et plusieurs fois dans le texte, le narrateur, qui, je le rappelle, déclare avoir observé lui-même comme étant membre de l'ambassade, insiste sur l'idée de les cérémonies selon l'ordre de leur église. Ceremonies according to the order of their church. Donc, il y a ce rapport de description et de distance. Alors la description de la fête du Corpus Christi mêle, dans une grande intrication, des éléments qui appartiendraient à une culture profane et folklorique, voire carnavalesque, avec des éléments qui appartiennent à une culture de la chrétienté, enfin de la tradition du rituel chrétien. Puisque la procession commence avec des géants, trois hommes, trois femmes et deux maures avec un fifre, un pipeau et un tambour. Et immédiatement après cette entrée, quasi carnavalesque, les géants de carnaval, les six personnages, trois hommes, trois femmes, accompagnés de ceux qu'on va retrouver, c'est-à-dire des faux maures, qui joue une musique de tradition folklorique sur des instruments comme le pipeau ou le tambour, viennent immédiatement ensuite les pèlerins, les croix, 25 ou 26, dit le texte, des images des saints, Saint Jean, Saint Georges tuant le dragon, qui a dû être cher cette image aux Anglais, Saint Michel, Saint François, Saint André, Saint Dominique, Saint Martin, des images du Christ, de Marie-Madeleine, de Our Lady, de Marie, et aussi des reliques, qui étaient les reliques à la fois qui sont qualifiées de holy and precious, et qui étaient, qu'on retrouvera plus loin, des reliques soit des églises, soit des monastères. Mais après cet ensemble, qui va des pèlerins aux reliques en passant par les croix, les images de saints, ou les images du Christ, on retrouve l'élément folklorique, puis venaient des Morris Dancers. Alors la Morris Dance est une des danses folkloriques anglaises, d'ailleurs dont Shakespeare s'est souvent emparé dans ses pièces. Il y a une Morris Dance dans la fin de Peine d'amour perdu. Et l'étymologie est discutée de savoir si Morris venait de Mauresque et donc était employé une origine supposée qui était celle des Maures, ou si cette étymologie est controuvée. L'essentiel était qu'il s'agissait d'une danse populaire où les personnages étaient masqués, une sorte de mascarade, et qui se liait à la célébration du printemps, généralement le 1er mai ou durant le mois de mai. Ici, le texte dit des Morris Dancers à la manière de gypsies, c'est-à-dire des bohémiens, et qui étaient accompagnés de bêtes avec des feux d'artifice, fireworks, et aussi des hommes sauvages et d'autres figures qui semblaient être reçues par les spectateurs, the people, avec admiration. On voit qu'est introduite, sans doute dans la procession et en tout cas dans la relation, cet épisode qui est déchiffré par l'auteur anglais comme une Morris dance, qui n'existe pas en tant que telle dans la tradition espagnole. C'est son regard qui lui fait assimiler ces danses, peut-être par des personnages déguisés en bohémiens, accompagné des tambours, accompagné des petites flûtes, à ce qui est pour lui une référence, c'est-à-dire dans la tradition folklorique anglaise, avec des modalités différentes selon les régions, la présence des Morris Dancers, qui peuvent être deux, mais en général qui sont un groupe de danseurs, et c'est de cette manière-là qu'ils apparaissent dans ils apparaissent dans aussi « Tout est bien qui finit bien ». Ensuite, on retourne à la dimension chrétienne. Venaient les frères des ordres de Saint-François avec leurs reliques et aussi des clercs avec leurs propres reliques, aussi les frères Augustins. Et ensuite, un certain nombre de membres du clergé avec des bougies ou des torches, puis le roi, puis les grands d'Espagne, et d'abord les grands d'Espagne, puis le roi, et suivant le roi, le cardinal et les ambassadeurs, ambassadeurs de France, ambassadeurs de Venise, ambassadeurs du Maroc, ambassadeurs de Savoie, tous ayant dans leurs mains des cierges allumés. Donc, c'est un texte très, très intéressant, très complexe, parce que d'un côté, il renvoie à une réalité qui était en Espagne, cette intrication attendue, normale, entre des éléments sacrés et des éléments profanes, entre un répertoire qui est celui de la chrétienté et d'autre part des éléments qui proviennent des traditions folkloriques. Et comme on le sait, ceci va incorporer à un certain moment Don Quichotte et Sancho eux-mêmes dans les fêtes de béatification d'Ignace de Loyola ou les fêtes de béatification de Sainte Thérèse d'Avila. Il y a des éléments qui intègrent une mascarade. Et par exemple, en 1610, dans une fête à Salamanque, les étudiants de l'université ont introduit dans un cortège qui n'était lui-même que la partie d'une immense série de cérémonies pour la béatification d'Ignace de Loyola, une mascarade qui était une mascarade, le triomphe de Don Quichotte, et dont la relation dit qu'elle a beaucoup plu, et surtout à ceux qui avaient lu le roman ou l'histoire. Donc, on voit qu'il y a là une réalité profonde derrière cette description, qui est cette présence du profane dans le sacré, d'une tradition folklorique et carnavalesque à l'intérieur des rituels chrétiens et du mélange entre le vocabulaire de la sainteté chrétienne et d'autre part des personnages qui appartiennent à ces traditions. D'autre côté, on peut dire aussi que la relation qui ne doit pas fâcher les Espagnols, puisque tout son but est de cimenter cette paix qui vient d'être signée, qui traduit quelque chose du regard de celui qui l'a produit. Je le disais pour le déchiffrer comme des Morris Dancers, quelque chose qui était à l'intérieur de ce cortège, peut-être lié à des Moors, des bohémiens de fiction, de déguisement, et qui introduisait à la fois une dimension de musique originale et de divertissement. Et d'autre part, peut-être, cette insistance sur les reliques ou sur les saints, liée si étroitement avec la description des éléments folkloriques, pouvait laisser introduire, sans que cela soit dit, la notion de superstition, et qui pour l'Église d'Angleterre, même si elle est d'orthodoxie luthérienne, pouvait incorporer dans l'anglicanisme, pouvait marquer une distance par rapport à ce qui était les cérémonies selon l'ordre de leur Église et pas la nôtre, comme suggère évidemment la relation. Le dernier moment de cette diplomatie du spectacle, de la distraction, du divertissement, il est donné par le 31 mai, le jour suivant, qui est celui des jeux, les jeux de taureau et les jeux des cannes, et avec en espagnol dans le texte « Juego de toros, juego de canas ». Le jeu de taureau, c'est la corrida, et il y a une description assez dense, intéressante, de cette corrida du fin mai, avant leur retour en Angleterre, donnée à l'ambassade anglaise, puisque la description dit que ce jour-là, 14 taureaux ont été tués, et de la manière suivante, par des chevaliers qui étaient armés soit de piques, soit de lances. Et le texte mentionne que les jennets, qui est le mot rare, mais qui désignait en anglais du XVIe siècle les petits chevaux espagnols, G-E-2-N-E-T-S, étaient les victimes de cette corrida, beaucoup étant hurt and killed, blessés et tués. Et il mentionne aussi le fait que certains des chevaliers avaient pu y laisser la vie. La relation dit, il paraissait que les plus courageux étaient ceux qui osaient affronter le taureau de face et s'en échappaient sans être touchés, mais certains n'échappèrent pas et il leur coûta la vie. But some escaped not well, for it cost them their lives. Donc il y a non seulement les chevaux qui sont tués, mais aussi un certain nombre de chevaliers, un jeu de taureau qui est aussi un jeu avec la mort. Et ce qui m'a frappé, c'est lorsqu'on lit la description du même événement dans la relation portugaise de Pinheiro da Veiga, il mentionne avec beaucoup de détails horribles les chevaux éventrés, les chevaux tués, les taureaux tués, mais il n'y a aucune mention de victimes parmi les chevaliers qui affrontent les taureaux. Alors, ou bien la relation anglaise a ajouté un élément qui n'était pas dans la réalité, ou bien là encore, on aurait une différence dans l'écriture, pour le moins, de sensibilité entre l'idée que pour les Anglais, comme pour Shakespeare de la fiction, il y a là un jeu d'une excessive, inutile cruauté, perdre la vie face à un taureau, alors que pour Pinheiro da Veiga ou pour les Espagnols, il y a là quelque chose qui participe de la normalité du divertissement. Ensuite, il y a un deuxième jeu qui est le Juego de Canas, c'est-à-dire canne de bois. Et là, c'est une description tout à fait différente de la corrida, parce que si à la corrida ne participe qu'un petit nombre de chevaliers qui se sont désignés ou ont été désignés pour affronter les taureaux, le jeu de canne est un jeu qui implique un très grand nombre d'aristocrates, 80 participants divisés entre 8 quadrilles et le roi lui-même dans un de ces quadrilles. Et le jeu consiste avec des bâtons de bois de charger les uns contre les autres, quadrille contre quadrille, mais non pas pour frapper les individus, mais pour atteindre avec le bâton de bois une cible que les chevaliers portent sur leur dos. Donc c'est un jeu qui tient quelque chose des anciens tournois, avec l'idée de la cible qu'on doit atteindre avec la lance, et en même temps d'un affrontement entre groupes, puisqu'il s'agit de toucher des cibles qui se trouvent sur les opposants. Ici, évidemment, la vie n'est pas en jeu. Le monarque participe de ce jeu, étant aussi la relation donne la composition des huit quadrilles qui avaient chacun 10 chevaliers. Là aussi, une analyse méticuleuse, je suis incapable de faire, pourrait montrer les équivalences. Le fait que tel ou tel se trouve ensemble dans le même quadrille et qui ne peut que renvoyer à la société des états et des conditions. Juste avant leur départ, et c'est le dernier entertainment donné à l'ambassade anglaise, juste avant leur départ, il y a un masque qui est donné dans la grande salle du palais. C'est du moins la manière, puisque c'était un divertissement très fréquent dans les fêtes aristocratiques ou royales anglaises, d'introduire des masques, c'est-à-dire des mascarades. Ben Jonson était un des écrivains spécialistes dans ces masques, qu'il intègre pour partie, pour certains d'entre eux, dans le Works, publié en 1616, comme je le disais. Et ici, le masque est décrit avec beaucoup de soin. C'est un spectacle allégorique où une des infantes est entourée de vierges qui dansent autour d'elle, puis 28 chevaliers et dames de la cour apparaissent lorsqu'un rideau s'ouvre et lorsqu'ils descendent d'une sorte d'escalier sur la scène elle-même. Et ce qui frappe la relation anglaise, c'est le fait qu'il y avait là tellement de torches et de looking glasses, de miroirs, que l'on avait l'impression d'être face à un nombre infini d'étoiles. Ce masque qui veut honorer l'infante comme incarnation de la vertu, puisqu'elle a ses présences virginales autour d'elle, se termine par un bal, par une danse, où le roi et la reine sont parmi les danseurs, et décrit comme ce que la relation appelle « calling dance », c'est-à-dire un danseur convie deux femmes, l'une est ramenée à son siège, l'autre danse avec lui, mais celle qui a été ramenée à son siège convie deux hommes, et le mécanisme se multiplie. Et la relation insiste sur le fait que deux des aristocrates anglais ont été conviés à participer à cette danse. On voit donc, et je termine avec ça, que d'un côté, évidemment, il n'y a pas de trace dans cette description de ce qui a été l'imagination d'Anthony Burgess. Il n'y a pas de comédien anglais, il n'y a pas de représentation de théâtre des pièces de Shakespeare, et il n'y a pas de rencontre à Valladolid entre Shakespeare et Cervantes. D'un autre côté, l'analyse ou la lecture de cette relation, en dehors de son intérêt propre, c'est-à-dire de donner à voir dans l'écrit les mécanismes, les dispositifs de la diplomatie de style ancien, permet de mieux comprendre ce qui sera l'objet de ce troisième cours la semaine prochaine, c'est-à-dire l'horizon de réception, l'horizon d'attente des lecteurs ou des élites anglaises par rapport à Don Quichotte, puisque cette relation montre que l'on est devant le désir d'un basculement du côté de, non seulement de la paix, mais des échanges, échanges d'ambassades, échanges d'ambassadeurs. L'ambassadeur d'Espagne qui va demeurer à Londres accompagne l'ambassade lorsqu'elle fait son retour. Et comme on l'a vu, l'ambassadeur anglais qui va rester à la cour d'Espagne, qui va bientôt se transférer en 1606 à Madrid, après les quelques années passées à Valladolid, accompagnait l'ambassade lors de son voyage. On a vu l'échange des présents. On est donc dans une situation dans laquelle l'échange des textes ou la réception des textes peut participer de ce nouveau cours politique et diplomatique. Et en même temps, on ne peut pas effacer ce qui lui le préexistait, c'est-à-dire le fait qu'il y avait hérité, au moins depuis les années 1560, une très profonde hostilité anglaise à la nation catholique qui incarnait au plus haut point le papisme détesté à partir de la réforme d'Henri VIII, qui incarnait le pouvoir, la force tyrannique et cruelle exercée aux dépens des Indiens d'Amérique ou aux dépens des protestants flamands en Europe, et qui, dans une certaine mesure, incarnait aussi l'autre, l'étrangeté. Et dans beaucoup de textes anglais, on voit que les Espagnols sont décrits comme s'ils étaient des Maures. Il y aurait une première black legend, mais pas au sens classique. Ce serait l'idée de considérer que les Espagnols sont eux-mêmes noirs. C'est-à-dire le fait que cette nation, qui a été une nation où se sont rencontrés les Arabes et chrétiens, musulmans et chrétiens, maures et espagnols, a gardé quelque chose de cet héritage. Et donc il y a une vision peu favorable à l'accueil, à l'échange, à la réception, et elle a été cimentée, comme je le disais, avec une petite erreur de date, comme Burgess, en 1583, par la traduction du texte de Las Casas, qui est le texte le plus puissant, le plus fort, avec celui de Manzoni, sur les tyrannies et cruautés commises par les Espagnols dans le Nouveau Monde. Et cette dénonciation d'une nation, d'un empire, d'une colonisation, le texte qui en espagnol s'appelait « Très brève relation de la destruction des Indes » est devenu en anglais « The Spanish Colony ». Donc il y a un lien étroit qui est noué entre la dénonciation politique de cette colonisation et l'accueil à la dénonciation chrétienne des atrocités commises par les Espagnols. Et cette date de 1583, évidemment, n'est pas si éloignée de 1604-1605, d'autant qu'entre les deux dates ont été multipliés les pamphlets, les libelles anti-espagnoles, à la fois pour dénoncer les Espagnols dans les cruautés et tyrannies commises dans les Pays-Bas, à partir de la révolte des provinces calvinistes du Nord, et un parallèle s'établit entre les Indiens et les Flamands, entre les victimes de ce pouvoir tyrannique et cruel, et aussi nourri par tout un ensemble de pamphlets anti-espagnols autour de la crainte de l'invasion espagnole, donc avant et après l'armada de 1588, qui devait permettre l'envahissement espagnol de l'Angleterre, invincible mais vaincue. L'armada n'atteint pas ses fins. Mais ceci est défini aussi dans l'horizon d'attente, dans l'horizon de réception, tout un ensemble d'éléments par rapport à l'espagnol détesté, haï, craint, et en même temps qui peut devenir un objet de ridicule, puisque finalement ses vues, ses desseins n'ont pas été accomplis. Et donc je pense que c'est sur cette tension, dans le temps très court, des années 1604-1605, et jusqu'à la traduction de Shelton de 1612, que on doit comprendre la réception de Don Quichotte. Et c'est ce que j'essaierai de montrer la semaine prochaine. Merci.